Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Dès son plus jeune âge, en répondant à son appel intérieur, Avelina s'est construite autour de la cosmovision andine et de l'éducation occidentale. Initiée par sa grand-mère, elle a cheminé à la recherche de réponses, de connaissances et de savoirs en se reconnectant aux racines de ses ancêtres et à la Pachamama, la terre-mère. D'origine andine et diplômée en ethnomédecine, elle s'est intéressée aux plantes médicinales traditionnelles et cherche aujourd'hui à faire des ponts avec l'Occident. Cette émission lui donne la parole afin d'en savoir davantage sur les traditions qu'elle porte en elle et partage autour d'elle. Donc on va parler des plantes, on va parler de ton histoire de vie, de ton parcours de vie. Donc avec moi, Avelina, je te rencontre sur un festival qui me donne la parole à différentes traditions, à différents peuples. Donc on voit des gens des différents continents. Toi, tu viens d'Amérique du Sud, de l'Équateur. Et l'idée dans cette émission radio qui s'appelle Regarde ailleurs, c'est vraiment te donner la parole pour te rencontrer et savoir un petit peu qui tu es et ce que tu proposes. Voilà, tout de suite parole à toi. On va peut-être revenir à ton enfance et une petite présentation. Qui es-tu et parle-nous du contexte dans lequel tu as grandi.
Et coucou à tout le monde. Je suis Avelina Rogel et je suis un mélange. Ma maman, elle vient d'une culture pré-inca, que c'est la culture Pansaleo, et mon papa d'une autre culture aussi ancienne, pré-inca, que c'est Palta. Ma maman est la moitié d'Équateur et mon papa du sud d'Équateur, qui c'est à côté de Pérou. J'ai grandi pas loin de Quito, que c'est une grosse ville, que c'est la capitale. Ma maman est partie de sa communauté, de son petit village, qui c'est dans la forêt de là-bas, de chez nous, et à rencontrer mon papa là-bas, pas loin de Quito, parce que chez mon papa, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas la pluie, ça durait ça, la sécheresse, et il n'y avait rien à manger. Comme ça, il était obligé à sortir de chez lui, et ma maman aussi, pour travailler et pour amener des sous pour la famille. Je suis née aussi dans un territoire millénaire, que c'est le territoire Quitucara. J'ai grandi, on a sorti de la communauté de nous pour retrouver une nouvelle communauté, qui c'est la réunion de différentes communautés, de différentes populations ancestrales de chez nous.
Quand tu parles de communauté, qu'est-ce que c'est que pour toi la communauté? Qu'est-ce que tu entends par communauté?
La communauté, d'ailleurs, c'est tout un mélange de tout. La communauté, c'est pas seulement et des gens qui sont nés dans un territoire. La communauté, c'est toutes les choses que tu partages avec les autres personnes. Et je dis en communauté parce que tu dois travailler pour amener de l'eau chez toi, tu dois travailler dans ton terrain pour pousser, mais tu pas pour faire tout seul, il faut que tu fasses avec les autres personnes. C'est ça en communauté, c'est pas une association, parce que dans l'association, il y a des gens et chacun jour, il vit dans sa maison. Et il y a une réunion chaque semaine, chaque mois, mais pendant que la communauté, on habite tous ensemble, il y a toutes les choses qu'on doit partager. C'est ça, un territoire, une communauté. Il y a les territoires originaux, il y a les territoires qui se refacent. Parce que maintenant, on n'habite pas comme avant. On était obligé à sortir de chez nous, en fait. Et tu sais, ça fait déjà des années. Qu'il y a de gros intérêts de tous les minéraux, de tous les plats, de toutes les choses qu'on a et on fait. Il y a des gens qui viennent avec beaucoup d'argent, des entreprises, et comme ça, le gouvernement, il nous pique, je ne sais pas si c'est comme ça, il vole les terrains sacrés, la montagne. Il nous fait pousser, sortir. Et c'est difficile, c'est pas le paradis, on va dire, mais c'est comme ça aussi.
Donc tu as vraiment les populations autochtones qui ont été obligées de quitter leurs terres.
Oui, oui, oui. Même maintenant, on vient de passer ça. On se bataille tout le temps. Et moi, je suis vraiment... Je travaille avec le territoire, pour le territoire. Et le territoire, pour nous, ce n'est pas les petits villages, la montagne, la forêt. C'est aussi les gens qui sont partis de là-bas et qui sont à la ville et qui, avec le travail de cette personne, les autres personnes, pour continuer à vivre dans la communauté et garder tous les, on dit, les huesos, huesos, je ne sais pas comment dire en français, mais les os, les grands-parents, de la grand-mère, la terre sacrée. Et oui, on est obligé à sortir, on est obligé à se défendre aussi.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les territoires... C'est assez triste, en fait, cette histoire de l'humanité où aujourd'hui on est comme dans un modèle de la propriété. Tu me parles de la communauté, alors qu'on vit plutôt dans un monde où aujourd'hui c'est l'individualisme qui va régner en maître, où on va accaparer les territoires, accaparer les terres, accaparer les richesses. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je pense, comme tu dis, non, il y a une façon de penser. Et c'est dommage que j'ai pas tous les mots que j'aimerais pour expliquer. Mais en fait, ici, parce que je connais un peu ici aussi, les pensées occidentaux, c'est le contraire de les sentir. Parce que chez nous, c'est la cosmovision. Ici, c'est plutôt la philosophie. La philosophie, c'est la théorie, les façons de regarder. Et c'est toujours les pensées. Chez nous, c'est plutôt la cosmovision et la cosmovivencia, c'est le corpus praxis, le cœur en train d'expérimenter tout le temps, non? De faire la praxis. Et ici, c'est les pensées, je ne sais pas comment dire, coupées, c'est Descartes, les pensées cartésiennes, que c'est le sujet, l'objet. Pendant que chez nous, il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un objet, on est tout le temps les mêmes choses. Ça dépend du moment. C'est pour ça que pour nous, la montagne, c'est nous-mêmes. La forêt, c'est nous-mêmes. La rivière, c'est nous-mêmes. On ne peut pas être éloigné de ça. On ne peut pas comprendre ça. Pendant que pour les pensées occidentaux, c'est toujours la façon de pouvoir, le pouvoir de moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Pendant qu'on ne comprend pas ça, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de territoire pour nous, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, on n'a pas une propriété, c'est collectif.
Donc ici, il y a cette manière de dissocier l'environnement et l'homme. Il y a cette déconnexion de l'homme à l'environnement. On vit dans des sociétés hors sol, hein, on le voit d'ailleurs, on crée des buildings avec des tours de plus en plus hautes, on s'éloigne de la terre quelque part. Alors que j'entends que dans ta culture, dans tes traditions, il y a une place de la nature qui est bien plus présente, hein, parce qu'on a encore cette conscience que l'homme appartient à la nature.
Oui, c'est ça. Et ma grand-mère me racontait, et mon papa aussi, que quand les Espagnols ils sont arrivés chez nous, ils obligeaient toutes les personnes à construire la maison de Dieu. Et les gens de chez nous, ils préféraient mourir que faire ça parce que les gens ne comprenaient pas. Parce que chez nous, avant, tous les endroits pour honorer la terre, l'esprit, les grands mystères, c'était ouvert, jamais fermé. Et comme ça, pour nous, la déité, le sacré, il nous habite dedans, pas dehors. Et ma grand-mère me disait, tu t'imagines de sortir la déité, le sacré de nous pour l'enfermer dans la maison? On préférait mourir. Et même maintenant, on préfère ça. On donne la chair, on donne le sang, la sangre, on donne la vie. Parce que si on ne peut pas être lié à ça, et on ne peut pas honorer tout, on ne peut pas vivre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
que ça veut dire parler avec les esprits? J'ai du mal à m'imaginer ça. Donc ta grand-mère disait les esprits, c'est ceux qui touchent pas le sol. Donc moi, quand je regarde autour de moi, je vois que des pieds qui touchent le sol. Donc qui sont ces esprits? Où sont-ils? Et comment est-ce qu'on s'adresse à eux?
Oui, tu sais, les esprits, ils sont plus grands que nous. Tu peux écouter une personne et tu t'en fiches. Mais les esprits, tu ne peux pas te ficher. Ils sont toujours à côté de toi. Ils te parlent, ils te disent des choses. Mais je pense que les gens ici pensent qu'on est folle, non? Parce que même moi, non, je disais avant, ah non, ça c'est une maladie psychologique, un truc comme ça. Mais nous, on se balade avec ça, on apprend après, non? C'est pas facile quand même, non? Et quelquefois, tu entends des choses, et tu regardes des choses. Et comment tu vas gérer ça? Tu t'imagines?
Tu entends des choses, tu regardes des choses dans le monde des esprits, alors? Ça veut dire que tu as une sorte de double vue où tu vois la réalité telle que moi je l'observe, plus une autre forme de vérité ou de conscience, ou j'essaie d'expliquer, parce que dans mon esprit occidental, j'ai du mal à... Bah déjà, je ne perçois pas les esprits, je ne les vois pas, je ne les ressens pas, donc j'ai du mal à comprendre qu'on n'est pas seul.
Oui, c'est plutôt comme tu dis, non? Tu es là, je parle avec toi, mais tu peux comprendre aussi une autre réalité. Il y a une vérité, tout vient d'une vérité. Mais cette vérité, il se fragmente, il y a des petits fragments de réalité partout. Mais il n'y a pas seulement cette réalité, il y a une autre réalité aussi, subtile. Et tu peux voir ça, tu peux comprendre ça.
Comment tu fais pour voir ça et comment tu fais pour comprendre ça? Est-ce que toi tu as accès à ces informations, à cette communication avec les esprits? Comment tu fais pour pouvoir avoir des messages qui viennent de ces esprits ou de ces entités ou de ces forces, ou je ne sais pas comment les nommer?
Le plus simple, on peut dire qu'ils sont là et que tu sais qu'ils sont là et qu'ils te parlent et qu'ils t'expliquent des choses. Au début, c'est difficile parce que tu penses que... Ah, même moi, avant, je me disais, waouh, j'ai un imaginaire. Ouf, il faut que je fasse quelque chose parce que ça va pas. Mais en fait, après, tu vas. Chez moi, j'étudiais l'homéopathie. J'ai un petit cabinet chez moi. J'étudiais aussi la psychothérapie. Et je travaille avec ça. Avant, j'ai les bouquins. Mais en fait, maintenant, je travaille intuitivement, on va dire. Mais oui, on se connecte avec notre réalité. Et quand tu lis, c'est la même chose que les esprits, ils te disent déjà à la base. Comme ça, après, tu dis oui. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas mon mental. C'est qu'il y a quelque chose, même si ma tête ne comprend pas, qu'elle est déjà là. Tu arrêtes de rêver. Dans la nuit, il vient la montagne, il te dit, ah, maintenant, je suis là, il faut faire ça, ça, ça. Et chez nous, dans la communauté, les gens, ils t'écoutent. Ils savent bien que c'est comme ça. Comme ça, ils viennent, on parle, ils te demandent. La communauté, on fait des réunions, et la communauté te dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on rêve ensemble. Et on fait en cérémonie les choses qu'il faut, on va dire, parce qu'on a beaucoup de choses aussi pour faire ça. Et on rêve ensemble. Et c'est là qu'on prend une décision. Et c'est les esprits qui nous parlent. Et l'esprit, il ne dit pas il dit que la vérité. Mais quelquefois, c'est dur, la vérité. Mais il te dit.
Est-ce que tu peux me donner un exemple de concret? Par exemple, quelqu'un, qui c'est qui vient te voir pour guérir quel type de maladie et comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir l'accompagner ou l'aider?
Oui, maintenant, pas maintenant, mais quand on avait la pandémie, il y avait un monsieur qui était tout seul, il s'était interdit de sortir et il tombait malade. Et il est un professeur de l'université et il appelait les médecins, ils sont arrivés, mais les médecins ne voulaient pas rentrer chez lui parce que c'était tout debout, il y avait beaucoup de peur de COVID, c'est ça, non? Et en fait, je rêvais, je ne savais pas qu'il était malade parce qu'on ne s'appelait pas pour téléphone. Hein? Et je lui dis à mon papa, je pense que Pascal, il est malade. Et mon papa, il me connaît, il me dit, il faut y aller chez lui. Je lui ai dit oui, parce qu'il est tout seul, il n'a aucune personne autour de lui. Et on est arrivé, c'était le médecin dehors. Il m'a dit, vous êtes la famille? J'ai dit oui. C'est pas vrai, mais j'ai dit oui. Il m'a dit oui, est-ce que vous pouvez entrer, vous pouvez parler? Et le médecin, c'était mais comme des astronautes, avec beaucoup de choses. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire ça, ça? Il ne voulait pas rentrer. Et moi, j'ai rentré, je lui ai dit, Pascual, qu'est-ce qui passe? Il m'a dit, en fait, je suis ça, je l'ai appelé. J'ai fait des prix. J'ai dit, ah, j'espère que maman Avelina, elle me va écouter. Il vous est venu? J'ai dit, oui, j'avais un rêve. Et on le va mener chez moi. Il dit, non, mais je ne peux pas y aller. Vous imaginez si je suis vraiment malade? Après, je vais donner la maladie à tout le monde. Je lui ai dit, mais Pascual, on a peur de quoi? La peur, il ne s'éloigne pas de la mort. Il nous éloigne de la vie. Il faut venir. Et on l'a mené à la maison. On les soignait, on les faisait des choses, les médecins aussi amenaient des trucs. Mais il était de pire en pire. Il pleurait, il pensait qu'il va mourir. Et en fait, j'ai demandé l'aide de son esprit. J'ai dit, il faut maintenant que tu m'aides. Et j'ai appelé à la montagne de l'endroit où il habite. J'ai dit, mais Taita Chimborazo, tu m'appelles. Je vais chercher à ton fils. Et maintenant, je fais quoi avec lui? Il faut que tu viennes. Et aussi, j'ai commencé à pleurer parce que je voyais qu'il souffrait. Mais à l'hôpital, il n'y avait pas la place. Et comme ça, on ne pouvait même pas l'amener à l'hôpital. Et je m'ai allongé un petit moment. Et dans cet moment, la montagne était... Tu m'appelles? Je suis là. Et j'étais... Et après, il me dit, il faut faire ça, 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 ça. Je me levais. C'était 4 heures de la matin. Je lui ai dit, Pascual, Pascual. Il s'est réveillé et je lui ai demandé de faire les choses que l'esprit m'avait racontées. J'ai parti de chez moi, chez sa maison, et j'ai fait toutes les choses que l'esprit m'a racontées. Et là, il m'avait dit, non, il faut faire ça avec cette feuille et cette plante. Mais je ne savais pas quelle plante. Et moi, je me dis, mais tu me donnes des choses, mais tu n'es pas précis. Mais quand j'arrive à sa maison, je regarde la plante, la même vision, et j'ai ramassé ça. Et je retournais chez moi, j'ai dit, alors Pascual, ça c'est sa médecine. Et je l'ai donné. Au début de 6 heures, elle s'est levée, il a commencé déjà à manger, il a commencé à nous aider à nettoyer la maison, avec un petit... Il était, mais... Et après, le mental, j'étais chez les ordi pour regarder qu'est-ce qu'elle avait pris. C'est une plante qui s'appelle guava chez nous. C'est un arbre. Il y a une petite plante qui est une espèce de plantago. Et j'ai lu qu'il y avait une recherche à une université au Pérou, San Marcos, et qui travaillait beaucoup la peur et qui travaillait beaucoup le nettoyage des voies respiratoires. Pour les gens qui ont des crises respiratoires, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Et que la autre plante, te donner la connexion avec la terre pour les gens qui sont en train de partir et que ce n'est pas le moment. Tu t'imagines? C'est la montagne, il vient, il te dit ça, on le l'amène et il commence à guérir.
Et quand tu dis c'est la montagne qui t'a donné ce message, donc c'est des messages qui apparaissent dans les rêves, c'est des visions que tu as dans les rêves ou c'est des visions que tu as quand tu es éveillée?
J'étais éveillée cette fois. Et après, oui, j'ai vu ça, mais c'est ça, non? Quelquefois, tu ne dors pas. Quelquefois, tu dors et dans les rêves, il y a des messages. Mais quelquefois, tu es debout et tu commences à recevoir. Mais pas seulement toi. C'est bien ça, parce que les autres personnes aussi, c'est une cérémonie, il y a une connexion. Et les autres personnes aussi, ils voient les mêmes que toi. Mais je ne sais pas, ici, je pense que vous, si vous faites aussi une cérémonie avec un plan maîtresse ou avec une vraie connexion, vous arrivez à regarder les mêmes choses parce que vous êtes des humains aussi, comme nous. Seulement que je pense qu'ici, il n'y a pas l'habitude.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc tu disais, tu es venu, tu as appris le français. en venant ici pour apprendre l'ethnomédecine, parce que l'idée c'était vraiment de faire des ponts entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, que chacune puisse apporter l'une à l'autre.
Oui, et ça c'est les Aliunian. Aliu, c'est la famille cosmique, Nian, les chemins. C'est la seule façon, c'est la seule chose qu'on doit faire, c'est chercher les ponts pour travailler ensemble. Et oui, je disais que moi j'avais un rêve, ça fait pas longtemps, de la Mama Coca, parce que les gens ils disent qu'on peut pas amener ici la Mama Coca parce que la Mama Coca c'est interdit ici. Comme ça, j'ai parlé avec l'esprit de la Mama Coca et je lui ai dit il faut qu'on voyage parce que chez nous on utilise la Mama Coca pour la parole douce. Quand on va faire une assemblée, on va parler tous ensemble et prendre des décisions importantes, on passe d'abord la Mama Coca pour accueillir, pour l'avoir avec nous et pouvoir être tranquille et pas fâché et que la parole il peut sortir doucement. Et j'étais ici, ça fait déjà 2 semaines que j'étais ici. J'étais invitée pour faire un stage, un atelier au sud de la France d'ethnomédecine avec la psychothérapie, avec Jean-Marie Delacroix. Et là, j'avais un rêve. Et le rêve, c'est que la Mama Coca était venue et me dit, tu sais, une chose qui est importante, c'est qu'ici, j'ai une sœur. Et elle me montre une autre feuille. Il me dit, ça, c'est ma sœur. Et je lui dis, c'est quoi? Et elle me dit, c'est les lauréens. Laurent, je ne sais pas si... Laurier? Laurier. Il me dit, c'est ça. Comme ça, tu dois aussi, à la place de me donner à moi, tu donnes ça parce que ça, c'est de cette mémoire. Et après, c'est l'esprit de Palo Santo, il me dit, oui, nous aussi, on vient ici, mais ici, il y a la lavande. On est les mêmes. Et c'était super parce que le lendemain, j'ai dit, est-ce qu'on peut acheter la lavande? Il dit, ah ouais, ici, il y a partout, c'est le sud, tu sais. J'ai dit, c'est super. Est-ce que vous pouvez amener des miel, des châtaignes? Ah ouais, et des lauriers. Et à la place de Mama Coca, j'ai donné un feuille de Mama Coca et un feuille de laurier. On a pris une médecine ancienne de chez nous avec la miel de la châtaigne et on a donné les huiles essentielles de Palo Santo mélangées avec les huiles essentielles de la lavande. Comme ça, c'est fait le lien avec les esprits parce que c'est tout, tout c'est vivant. Les humains pensent que les plantes ne parlent pas, que les animaux ne peuvent pas parler, mais ce n'est pas vrai ça. Comme ça, si l'esprit de Palo Santo il se fait copain de l'esprit de la lavande, il le réveille à elle aussi, il est laurier, il se fait copain de Mama Coca, qu'il travaille tout le temps et qu'il sait bien comment il faut faire, l'esprit aussi se va réveiller et on va travailler ensemble.
Donc on associe en fait un esprit à une plante dans ta culture et dans ta tradition. Une plante, oui. C'est pas juste une plante, c'est un esprit et c'est un pouvoir guérisseur, oui. Derrière.
Et c'est pas seulement une plante, on travaille avec les pierres, les cailloux, on travaille avec l'eau, et le feu, le fuego, l'air, la terre. Pour nous c'est tout vivant, il y a un esprit, c'est comme si je pouvais parler avec toi, oui. Mais c'est vrai qu'il faut s'habituer ici. Non, chez nous, on est déjà habitués. On parle tout le temps. Si on est fâché avec la famille, tu parles à la montagne, tu le parles à la montagne il te répond, et tu pleures. Et la montagne après te dit, mais, et après tu reviens, et tu reviens bien parce qu'il y a une grande personne, un grand père, une grande mère qui t'accueille et te dit, bon, ça passe rien, ça passe rien. Je suis là, ça fait des années, ça passe rien. Et ça, c'est super parce que il n'y a aucun mot pour ça.
Et je rebondis sur cette notion, tu disais la Mama Coca, elle a une sœur ici, c'est la feuille de laurier. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cet engouement pour tous les Occidentaux pour aller en Amazonie, pour faire des cérémonies avec l'ayahuasca, avec le peyote ou avec différentes plantes de là-bas? On observe de plus en plus ça, une forme de tourisme autour des plantes sacrées.
Ça c'est difficile chez nous, tu sais, ça c'est comme en prostitution. Et le problème, c'est que les gens, ils viennent, comme il y avait un monsieur qui me dit, bon, apprendre des substances psychédéliques. Ils ne comprennent pas qu'il y a un esprit, qu'il y a une personne, on va dire, dedans de cette plante, qu'il vient à parler avec toi. Ce n'est pas ça la médecine. Si tu comprends pas ça, tu prends pas en médecine. Oui, c'est la mode, c'est comme le tabac, c'est comme les psychédéliques qui se prennent partout. Tu fais une expérience pour ta tête, pour ton corps, mais pas pour ton esprit. C'est comme en voiture. C'est pas en médecine pour la voiture, c'est pour les conducteurs. Mais ici, je pense qu'il faut travailler ça parce que chez nous, maintenant, ça commence à couper partout. Et ça, c'est un gros problème. Il y a un gros danger. Maman ayahuasca, elle est arrachée partout. Amener la médecine ici. Taïta San Pedro. Tu t'imagines? Tu as besoin de 25 cm de maman aguacolla de San Pedro pour faire un dos pour une personne. Tu t'imagines combien de dos il faut ici? Et les gens, ils prennent pour faire une expérience, pour, je sais pas comment dire, psychédélique. C'est, pour nous, c'est, j'essaie de comprendre, parce que je sais qu'il y a besoin et qu'il y a des gens qui veulent changer, mais c'est pas ça le chemin, c'est pas ça. Ici, les gens, c'est rigolo, parce que les gens, ils me demandent tout le temps, non? On fait quoi? Et ça, c'est pourquoi? Et je dis, non, mais maintenant, arrête les questions, c'est moi qui je pose les questions. Vous venez ici, pourquoi? C'est une cérémonie simple. Mais vous voulez faire quoi? Si on sait déjà où on va y aller, comment on va faire pour arriver juste là? Et c'est tout ça, c'est fait pas comme un petit gâteau. Il faut faire petit à petit et avoir beaucoup la patience. Mmh. Et travailler beaucoup parce que chez nous, on fait beaucoup de services pour la communauté, on fait pousser les plantes. On fait la nourriture, on accompagne les gens. S'il y a une personne malade, s'il y a une personne qui lui arrive quelque chose, on est là, on partage tout le temps. Et le guérisseur, le vrai guérisseur, il est dans son service, d'une façon, la humilité. C'est pas comme si c'est, les gens, c'est comme si tu viens, c'est un gourou. Moi, je dis non. Moi, je suis le même que toi. On se regarde bien. Toi me peux donner plus peut-être que moi à toi. Il faut que tu comprennes ça. Je suis pas bien à l'aise quand les gens étaient... Je sais qu'il y a un besoin, mais je ne vais pas profiter de cet besoin et dire, ah, mais moi, je sais bien qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, il y a ça chez toi. Ça, c'est profiter. Et ça, ce n'est pas bien. Après, les esprits, ils sont avec nous.
Avelina, on va terminer avec une chanson que tu as envie de partager avec nous. Un chant peut-être sacré, un chant de ton ethnie, de ta culture, juste une chanson.
Cocharruna de la laguna, yacuguarmi soy. Cocharruna de la laguna, yacumuya voy. Yaku canta, yaku manta, canta la guaboy. Lava cabeza y cura chunguito, purificación. Ay, 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 wilka, 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 umayay.
Merci Avelina pour ton authenticité et pour ton partage de vie et d'expérience. Merci à toi.
Merci à vous, à tout le monde qui écoute. Au revoir.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.